Bonjour Cécile Michel.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, assyriologue et professeure à l'Université de Hambourg depuis 2016. Dès 1988, et votre thèse de doctorat soutenue à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous travaillez sur les tablettes cappadociennes, puisque, comme vous l'écrivez, page 370 de votre ouvrage, et dont on va parler dans un instant, à propos de Taram Koubi, qui est l'une des 26 femmes qui constituent le panel, si je puis dire, de votre ouvrage, c'est par son mari, Inaya, que s'est ouverte, dites-vous, pour vous, la première porte d'entrée dans le monde assyrien. Alors, on va y revenir. Mais... Donc, vous êtes une des membres éminentes du groupe international d'experts et de chercheurs chargé du déchiffrement des tablettes cunéiformes découvertes à Kultepe. C'est le nom contemporain d'une ville ancienne dont on va parler souvent, nommée Kanesh, en Anatolie centrale. Bon, pour celles et ceux qui auraient des difficultés en géographie, on va dire que c'est la Turquie continentale, hein, voilà. Mais du côté de l'Asie, hein. En Anatolie centrale, dans ce qui se nomme aujourd'hui la plaine de Kayseri, et qui est, et vous le précisez dans votre livre, une sorte d'oasis, hein, un jardin d'Éden, au milieu de steppes plutôt arides. Et c'est important parce que ce jardin particulièrement fertile, eh bien, il va se trouver, jouer un rôle tout à fait essentiel. Et cela, déjà, il y a 4000 ans, au 19e siècle, avant notre ère. Donc, c'est aussi, et c'est un site qui est aussi un formidable terrain de recherche pour les archéologues depuis la seconde moitié du 19e siècle, cette fois-ci, après Jésus-Christ. Même si à cette époque, donc milieu du 19e, il est pillé par tout un tas d'archéologues clandestins qui pillent de manière assez sauvage les lieux de recherche de ce qui fait la renommée du site, des tablettes d'argile gravées de caractères cunéiformes. À partir du début de 1948, des archéologues de l'université d'Ankara entreprennent des campagnes de fouilles tout à fait officielles et scientifiques. Au point qu'aujourd'hui, rappelez-vous, page 28, que les archives privées, je vous cite, que les archives privées de Kanesh représentent le plus important et le plus ancien lot d'archives privées dans l'histoire de l'humanité et sont à ce titre inscrites au registre Mémoire du monde de l'UNESCO depuis 2015. Elles fournissent des données exceptionnelles, entre autres, hein, et c'est l'objet de votre livre, sur le quotidien des femmes il y a 4000 ans. Alors, ce livre, le voici, Cécile Michel, je le montre à la caméra, donc il est publié au Seuil, « Quand les femmes écrivaient l'histoire entre la Mésopotamie et l'Anatolie il y a 4000 ans », donc c'est le sous-titre. Alors, en termes de datation historique, donc on est, vous me corrigez, hein, si je me suis, pris les pieds dans le temps, on est au 20e et au 19e siècle avant Jésus-Christ. Pour donner une idée et qu'on se repère bien, Ramsès II, que tous les Français connaissent, il est né vers 1301-1304 avant Jésus-Christ. Et il est mort à 91 ans plus tard, semble-t-il, donc vers à la fin de 1300. Donc, c'est pour avoir une idée. Hein, on est 600 ans avant Ramsès II. La Mésopotamie est le théâtre de conflits permanents. Au nord, dans une région qui correspond aujourd'hui à celle de Mossoul, la Syrie devient un royaume indépendant et expansionniste qui se projette, en particulier commercialement, en remontant vers les sources des deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, je rappelle en grec, d'où le nom de Mésopotamie, étymologiquement, et on va donc vers le plateau anatolien. Alors on va découvrir tout cela. Je vais vous poser une première question qui va vous paraître peut-être complètement décalée, mais c'est par curiosité. Comment est-ce qu'on devient assyriologue et qu'est-ce que ce terme recouvre exactement comme champ scientifique et comme terrain de recherche? Voilà.
Alors, ce terme est en fait pas tout à fait correct pour désigner la discipline parce que assyriologue, ça vient d'Assyrie. Oui. Et ce terme a été mis en place, on va dire, au milieu du 19e siècle, lorsque les premiers diplomates archéologues se mettent à faire des fouilles archéologiques en Irak. Donc, le premier, c'est Paul Émile Botta, qui est consul de France à Mossoul et qui, sur ses propres deniers, va commencer à faire des fouilles dans plusieurs villes qui s'avèrent être des capitales assyriennes. Et les Anglais arrivent sur le fait, etc. Et en peu d'années, au milieu du 19e siècle, on va avoir 3 des 4 capitales assyriennes qui vont être mises au jour. D'où le nom de la discipline qui s'intéresse à la Syrie. Mais c'est très restrictif par rapport à ce qu'on fait réellement, parce que les assyriologues travaillent sur toute la production de textes en écriture cunéiforme.
Ah, d'accord.
Or, l'assyrien, c'est un des dialectes de l'acadien, qui est une des 12 langues ou 15 langues qui ont utilisé cette écriture cunéiforme. Donc, c'est très restrictif.
Et vous dites dans votre livre que l'écriture cunéiforme, on la trouve de la Méditerranée au golfe Persique, et de la mer Noire à Armana, en Égypte. Donc c'est vraiment... je crois qu'on la trouve entre 3100 avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ, si je vous ai bien lu.
Alors c'est un petit peu avant. En fait, l'écriture cunéiforme est inventée par les Sumériens, un peuple qui parle une langue qui n'est apparentée à aucune famille linguistique et qui habite dans le sud de l'Irak actuel, donc dans le sud de la Mésopotamie. Et c'est à peu près vers 3400 que ces Sumériens inventent ce système d'écriture qui, à l'époque, est utilisé de la manière suivante, un signe égale un mot ou une idée. Donc c'est un peu comme le chinois aujourd'hui.
C'est ça, c'est des idéogrammes un peu.
Voilà, c'est ça. On appelle ça plutôt des logogrammes. Mais donc, et vers 2600 avant Jésus-Christ, donc pas mal de siècles plus tard, une population d'origine sémitique arrive dans la région. Ce sont les Akkadiens. Ils n'ont pas d'écriture et ils adoptent l'écriture des Sumériens et ils vont transformer cette écriture logographique en écriture syllabique. C'est-à-dire qu'ils décomposent leurs mots en syllabes et à chaque syllabe correspond un son.
D'accord.
D'un signe sumérien.
Alors, on va y revenir parce que c'est tout à fait passionnant. Je suis même allé voir sur Internet, comme on dit aujourd'hui, des petits tutos où vous montrez comment on écrit. Voilà.
Oui.
Alors, donc, vous dites aussi dans votre livre, ça c'est page 18, que 22 000 tablettes cunéiformes rédigées en vieil assyrien sur le site de Kanesh ont été exhumés, de maisons situées dans ce qu'on appelle la ville basse. Il y a un plan qui donne bien la configuration de ce site. Et dans certaines de ces maisons, on n'en a trouvé qu'une dizaine, mais dans d'autres, plus de 1500. Et alors là, il y a un premier fait incroyable, parce que votre livre, c'est une succession aussi dans l'introduction et la conclusion. On va dire pourquoi ces deux textes encadrent le corps de votre livre et les 24 chapitres. Ce fait incroyable, donc, c'est que certaines de ces maisons ont été détruites par le feu, et les tablettes d'argile, loin d'être détruites, ont cuit, et finalement, elles ont été épargnées bien plus que les rouleaux de papyrus. On pense au fameux grand incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie, qui a ravagé des textes incroyables. Donc, ces petites tablettes-là, elles ont, comme on dit aujourd'hui, pour faire chic, une résilience physique assez forte. Alors, elles se présentent comment, ces tablettes? Vous dites que ça tient dans la paume de la main.
Alors, ce sont des petits coussinets d'argile.
D'accord.
Qui, effectivement, dépassent pas la taille de la paume de la main, surtout pour les lettres, parce que comme les lettres voyageaient, il ne fallait pas faire des objets trop grands, parce que ça risquait de casser.
Oui.
Et dans l'Antiquité, elles étaient séchées à l'air, elles n'étaient pas cuites.
D'accord.
Ce qui fait qu'effectivement, quand les maisons ont brûlé, ça a permis de cuire les tablettes et ça a augmenté leur résistance.
C'est incroyable. Et alors, pourquoi? Parce que là, il y a une terre argileuse dans cette oasis de Kanesh.
Alors, ces tablettes...
Non, elles sont plutôt assour.
40% de ces tablettes sont des lettres qui sont envoyées depuis le nord de l'Irak ou d'autres villes anatoliennes à Kanesh.
Oui.
Et cette écriture, en fait, depuis quasiment le départ, elle est inventée sur l'argile. C'est-à-dire qu'en Mésopotamie propre, dans le sud de la Mésopotamie où elle est née, eh bien, il y a essentiellement de l'argile, de l'eau et des roseaux. Donc, ils ont utilisé ce qu'ils avaient dans leur entourage pour inventer le support et l'outil pour écrire.
Alors, vous avez expliqué ce que c'était que l'écriture cunéiforme. Vous dites que c'est à la portée de tout le monde, adulte comme enfant, comme en témoignent les nombreux ateliers d'écriture, dites-vous, que j'anime depuis des années. Alors, bon, expliquez-nous en quelques mots. Vous avez un petit stylet en bois. et vous faites des signes dans l'argile.
Alors, le principe, c'est écriture cunéiforme, donc c'est une appellation qu'on lui a donnée vers 1700 de notre ère. Mais en fait, déjà dans l'Antiquité, les Sumériens et les Akkadiens appelaient leur écriture écriture en triangle. Donc, ça se présente comme des petits clous.
C'est ça, d'où le nom de clous, oui.
D'où le nom de cunéiforme en forme de coin ou de clou. Et on utilise effectivement un stylet qui est, alors dans le sud de la Mésopotamie, plutôt en roseau, mais qui peut aussi être en bois ou en d'autres matières, et qui est donc pour lequel on travaille sur la section et un angle droit de la section qui permet, en enfonçant dans l'argile fraîche et molle cet angle, d'obtenir un petit clou. Et l'écriture se présente en une combinaison de petits clous verticaux, horizontaux, têtes de clous, etc. Donc chaque signe est composé de plusieurs petits clous.
Oui, parce que
vous orientations.
Pardon, vous êtes comme tous les grandes expertes modestes et vous dites que c'est facile, mais vous dites qu'il y a un vrai problème, c'est la complexité qui consiste, dites-vous, à retenir la combinaison de clous verticaux, horizontaux et obliques, formant chacun un système de signes. Et vous dites, dans certaines parties de la Babylonie, c'est très, très compliqué, c'est pas si simple que ça. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est par pure curiosité, après on va vraiment être dans le livre, est-ce qu'il y a eu un champollion de la découverte, de la compréhension de l'écriture cunéiforme? Est-ce qu'il y a eu aussi, par exemple, une pierre de Rosette de l'écriture cunéiforme? Et comment est-ce qu'on a commencé à la lire, ça?
Alors, je voulais distinguer deux choses. D'abord, c'est le geste. Oui. Technique est très simple. Effectivement, tout le monde peut faire. Retenir les différents signes, il y en a plusieurs centaines parfois, c'est beaucoup plus complexe. Alors, nous n'avons pas de Champollion, parce que Champollion, lui, disposait dans sa pierre de Rosette d'une version qui était écrite en hiéroglyphe, en hiératique et en grec.
Oui, c'est ça.
Et donc, il connaissait le grec et il savait lire et il savait de quoi parler le texte. Nous avons aussi des bilingues, des trilingues en cunéiforme, mais les trois textes se présentent en cunéiforme, donc on partait de rien. Et puis, c'est une écriture qui avait été totalement oubliée, parce que l'écriture cunéiforme s'est arrêtée au IIe siècle de notre ère, et après, elle a été oubliée. Et les savants qui ont visité des sites au Proche-Orient ne savaient même pas si c'était une écriture ou quelque chose de décoratif au départ. Donc, on est parti très loin. Et puis, donc on n'a pas un Champollion, mais on a une série de savants qui, chacun à son tour ou simultanément, ont fait des petits progrès. Donc, le premier, c'est un latiniste allemand, Grotefend, qui est parti des versions trilingues les plus simples. C'est-à-dire qu'on a pensé à compter le nombre de signes différents qu'il y avait dans chaque version. Dans une des versions, il n'y avait que 40 signes, alors que dans les autres versions, il y avait plusieurs centaines de signes. Donc, il s'est attaqué à la version la plus simple. Ce sont des inscriptions qui étaient trouvées en Iran. Et il savait que le site sur lequel ces inscriptions se trouvaient en Iran datait entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, donc devait dater de la période achéménide, dont les rois étaient connus dans les écrits grecs. Et donc, il a commencé à essayer de trouver dans ces inscriptions monumentales les noms des rois perses, achéménides, et puis des titulatures royales, donc le titre roi, le titre fils d'eux, etc. Et c'est comme ça que ça a tout doucement commencé. Et le travail a été complété par un militaire britannique qui s'appelait Henry Rawlinson.
À quelle époque ?
Alors là, on est en 1850, d'accord, à peu près, quand l'alphabet vieux perse est déchiffré. Et à ce moment-là, les savants se retrouvent dans la situation de Champollion, parce que face à ces trilingues, ils savent lire un des textes.
D'accord.
Mais on est loin d'avoir résolu le problème, parce que les débats portaient sur la nature de la langue et la famille linguistique de la langue suivante qui était à déchiffrer. Et il a fallu 4 savants, 3 britanniques et un français d'origine allemande, pour arriver au bout du déchiffrement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu un test lancé par la Société royale britannique en 1857, qui a proposé à ces 4 savants de plancher séparément sur un objet en cunéiforme qui avait été découvert il y a peu, et ils devaient rendre leur copie sous pli scellé. Et le 27 mai 1857, une commission spécialement nommée a comparé les traductions et a déclaré que l'acadien cunéiforme était déchiffré parce que les traductions correspondaient plus ou moins.
C'est incroyable. C'est un roman quasiment
policier. Absolument.
Une enquête policière. Et vous, je suis pas indiscret, mais vous y êtes mis quand? Parce que dans le livre, il y a tout un tas de références avec vos traductions signées Michel.
Oui.
Qui sont les traductions des textes de ces lettres de femmes. Vous avez commencé pour votre thèse, mais vous le parlez, voilà.
Non, alors moi j'ai fait des études d'archéologie et d'histoire, et en licence d'histoire j'ai découvert un cours d'épigraphie cunéiforme et je suis tombée dedans.
Ah, voilà.
Donc c'était pendant mes études universitaires.
D'accord. Bon. Alors, on revient sur Canèche et Assour. Il y a 1000 kilomètres entre les deux villes. Il y a une carte qui nous montre bien. Donc, Assour, c'est à une centaine de kilomètres au sud de la ville de Mossoul, j'allais dire tristement célèbre, parce qu'on en a parlé beaucoup dans l'actualité depuis 2014. Et Mossoul, c'est le chef-lieu d'une province qu'on connaît bien dans notre histoire, y compris de l'Antiquité, c'est Ninive, hein, la province de Ninive aujourd'hui. Voilà. Alors, les relations entre ces deux villes, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont commerciales En particulier, c'est passionnant, vous publiez 6 arbres généalogiques de familles de commerçants. Donc le flux, j'allais dire, de commerce, c'est on part d'Assour, c'est des caravanes de centaines d'ânes, et on arrive à Canèche, dans ce lieu verdoyant et magnifique. Il faut combien de temps de trajet? Et puis, qu'est-ce qu'on transporte et qu'est-ce qu'on vend?
Alors, ce commerce s'est mis en place vers la fin du XXe siècle avant Jésus-Christ, et il était, on va dire, promu par les rois d'Assour, qui à l'époque est une petite cité-État. C'est de loin pas du tout la capitale d'empire assyrien qu'on a au premier millénaire, c'est une toute petite cité-État, avec des rois qui ont un pouvoir relativement limité, mais qui encouragent les mouvements économiques. Et donc, ces marchands qui sont originaires de cette ville achètent de l'étain qui vient de très loin à l'est, parce qu'on a fait des analyses isotopiques sur des lingots d'étain, et on s'est aperçu que ça venait de mines exploitées en Ouzbékistan ou Tadjikistan.
Ah, d'accord.
Donc, ce sont les populations qui habitaient à l'époque en Iran, qui sont des élamites, qui apportent cet étain dans la ville d'Assour et qui le vendent aux Assyriens. Et puis, en plus de l'étain, les Assyriens transportent des textiles qu'ils ont achetés dans le sud de la Mésopotamie, aux Babyloniens, ou encore des textiles que leurs épouses et leurs filles confectionnent à Assour. Ces textiles sont d'excellente qualité. Ce sont des tisseuses renommées qui sont très, très douées et qui font des produits de luxe. Et puis, ils élèvent à proximité d'Assour des ânes robustes, des ânes noirs. Et donc, ces marchandises étain et textiles sont chargées sur ces ânes. On loue des fréteurs, des âniers professionnels. Et les caravanes donc démarrent d'Assour et mettent à peu près 6 semaines pour parcourir cette distance entre Assour et Canèche. Canèche étant un comptoir de commerce assyrien, mais c'est pas le seul. Voilà. Il y en a une trentaine ou quarantaine à cette époque-là en Anatolie, mais c'est le centre névralgique de tous ces comptoirs de commerce.
On dirait, avec un anachronisme anglo-saxon, c'est un hub, quoi. C'est un hub commercial.
Voilà. C'est ça.
Bon. Alors, oui, je précise, parce que vous m'avez rectifié, on dit Assour pour la ville et Assour pour le dieu, c'est ça?
C'est l'inverse. En fait, on dit... Les deux s'écrivent Assour, mais nous, pour les distinguer, oui, on va écrire Assour pour la ville et Assour pour le dieu. Mais moi, par défaut, je dis le même mot, puisque la ville porte le nom du dieu.
Oui, d'accord. Donc, on dit bien. Alors, on peut dire Assour et Assour, ça va.
Ça va.
Bon, merci. Alors,
Et ce qui est important, ouais, pour continuer, donc, ce qui est important, c'est qu'on est en plein âge du bronze.
Ouais.
Et pour faire du bronze, il faut de l'étain et du cuivre.
C'est ça.
Alors, il y a beaucoup de mines de cuivre en Anatolie. Il y avait des mines d'étain exploitées au troisième millénaire. On pense qu'elles sont plus suffisantes. Et donc, cet étain importé depuis très loin à l'est, jusqu'en Anatolie, sert à fabriquer le bronze.
Alors, vous dites d'ailleurs dans le livre, il y a une représentation, une sorte de fresque qui représente la basse ville de Canèche avec l'arrivée d'une caravane d'ânes. Il faut s'imaginer, ça, c'est très bruyant, il y a les marteaux des maréchaux ferrants, enfin des ferronniers qui tapent sur les enclumes pour fabriquer les armes. Il y a le crottin des ânes en quantité. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que tout ça aussi se fait avec des négociations commerciales en permanence. Hein, voilà, parce que et c'est là qu'on va arriver au sujet de votre livre, qui donc c'est autour de ces femmes. Alors petite parenthèse qui n'est pas négligeable. Vous dites le livre il doit beaucoup au formidable gisement de savoir historique que constituent les millions de textes cunéiformes. Vous dites que ça permet de retracer l'histoire des différents peuples qui ont vécu au Proche et au Moyen-Orient, mais vous dites aussi, à la manière, en reprenant les propos de Michel Perrault, l'extraordinaire historienne des femmes, hein, et ça, c'est elle l'écrit dans un livre qu'elle a publié avec Eduardo Castillo en 2023, qui s'appelle Le temps des féministes, publié chez Grasset, maison d'édition dirigée alors par Olivier Nora. Michel Perrault dit: l'histoire ancienne est souvent une histoire d'hommes, écrite par les hommes, occultant, dit-elle, les femmes, entraînant silence et oubli. Et en quelque sorte, je ne dis pas en vous appuyant sur cette réflexion, mais dans la trace de Michel Perrault, qui est vraiment quelqu'un de tout à fait lumineux, vous avez choisi de nous proposer les lettres, la correspondance privée, mais aussi des documents à caractère officiel de 26 femmes. Alors, chacune d'elles fait l'objet d'un chapitre, et vous leur avez à chacune associé un statut, une qualité, un état. Alors, je dis pêle-mêle, la fiancée ingrate, la moraliste, la mère inquiète, la brasseuse domestique, l'éleveuse de bœufs, la belle-mère en colère, la propriétaire d'esclaves, la concubine, la femme délaissée. J'ai cru comprendre que celle-là figure parmi vos préférées, on va y revenir. Je cesse là l'énumération. Elles sont loin d'être toutes des reines, voire des épouses royales. Il y en a une quand même qui s'appelle Akatilla. Il y a une religieuse, gardienne des bonnes mœurs, une dévote, des entrepreneuses, on dirait aujourd'hui des manageuses. Vous dites qu'après des décennies où on a invisibilisé les femmes dans les recherches et ignoré complètement dans les études mésopotamiennes, un nouvel intérêt, dites-vous, pour la place tenue par les femmes dans les textes rédigés pour un usage immédiat que l'on désigne comme texte de la pratique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces textes de la pratique? Qui sont-elles, ces femmes, et à qui écrivent-elles? Alors, j'ai les réponses parce qu'elles sont dans le livre, mais je préfère que ça soit vous qui le disiez.
D'accord. Alors, en fait, ces tablettes découvertes à Caniche, donc on en a en tout 23 000, mais 22 000 découvertes dans la ville basse et qui datent de la première moitié du 19e siècle avant Jésus-Christ, elles ont été essentiellement exploitées pour toutes les données économiques, c'est-à-dire tout ce qui a trait au commerce international. C'est rare que ce commerce à longue distance soit documenté avec autant de détails. Et surtout, ils ont mis en place des outils économiques qui sont déjà extrêmement ingénieux et avancés. Ouais. Et donc, toutes ces archives ont été exploitées, on va dire, essentiellement pour ça. Et en fait, si on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que ça, loin de là, parce qu'on est dans une situation tout à fait atypique. Beaucoup des femmes, surtout pour les premières générations de marchands, sont restées à Achour pendant que leurs maris partent faire du commerce à l'étranger. Et la séparation des familles et des époux fait qu'ils s'écrivent, puisque c'est le seul moyen de communication. Donc on est dans un cas un peu atypique qui, justement, permet de documenter toutes ces femmes qui, si elles vivaient avec leur mari, ne leur écriraient pas, et donc on n'aurait pas cette documentation. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en fait leur donner la place qu'elles méritent, puisqu'on a cette documentation qui est assez extraordinaire en l'occurrence. Alors, donc ces femmes, beaucoup d'entre elles sont restées à Achour, mais au bout de 2-3 générations, il y en a qui ont fait le voyage et qui sont allées s'installer à Caniche. Donc on a des tas de situations un peu différentes, mais ces femmes donc écrivent aux membres de leur famille, donc à leur père, à leur frère, à leurs époux, sur ce qui se passe et leur vie quotidienne à Achour.
Il y en a même une qui ne veut plus rentrer. Hein. Elle s'appelle Salima. Elle est très bien. Bon, mais alors, question qui où je rebondis sur ce que vous venez de dire. Les hommes y répondent ou ils ne répondent pas? Ça, on ne peut pas savoir.
Alors, en fait, ils répondent. On le sait parce que souvent, dans les lettres, ouais, on cite des lettres qu'on a reçues. Ouais, c'est ça. Donc, tu m'as écrit ceci, etc. Ouais, ouais. Malheureusement, on n'a pas retrouvé les niveaux correspondants dans la ville d'Achour, puisque les fouilles se sont concentrées sur la capitale du premier millénaire. On n'a pas été creusé dessous. Et donc, on n'a pas l'équivalent à Achour.
Ah oui, on peut imaginer que si on continuait à fouiller à Achour, on pourrait trouver les éléments de réponse. À condition que les hommes aient été suffisamment patients et corrects pour répondre aux femmes. C'est un autre débat, ça. Mais...
C'était pas ma réponse. C'était oui, à condition que cette ville du début du 19e siècle avant Jésus-Christ ne se situe pas sous le cimetière musulman actuellement.
Ah, d'accord. Ah oui, bien sûr.
Voilà, on ne peut pas fouiller n'importe où.
Oui, bien sûr. Alors, je vous cite encore, parce que c'est page 370. C'est très touchant ce que vous dites. Voilà à présent plusieurs décennies que je fréquente ces femmes qui me sont devenues si familières, voire intimes, et chaque jour, je m'étonne de leur proximité avec nous. Dans leur correspondance, je retrouve les mêmes conflits entre hommes et femmes qu'aujourd'hui, souvent portant sur l'argent, les relations mère-fils avec tendresse, inquiétude et remontrance, les mêmes conflits générationnels, les mêmes craintes des possibles commérages des voisins. Fermez les guillemets. Alors, il n'empêche que moi, j'ai bien lu les textes. À chaque fois, la traduction de lettres, moi, je les trouve globalement, ce sont des femmes, comme on dit dans un vocabulaire qui n'a rien de très rigoureux, ce qu'on appelle des femmes de tête. Elles ont une vraie autorité dans leur écriture, hein. C'est pas des femmes qui sont soumises. Elles sont souvent des dirigeantes. Mais est-ce que ce sont pour autant des sociétés matriarcales? Non.
Non, pas du tout. Nous sommes dans des sociétés patriarcales, mais ces femmes se retrouvent chefs de famille dans la mesure où les maris désertent le foyer pendant le long mois. Donc, elles remplacent les hommes à la tête du foyer et gèrent en plus représentent les activités commerciales de leur pendant masculin dans la capitale à Achour pendant que les hommes sont loin. Donc, elles ont énormément de responsabilités et du fait, effectivement, ce sont des femmes de caractère qui savent très, très bien mener leur barque et défendre leurs propres intérêts. Parce que pour aller un petit peu plus loin, elles-mêmes sont investies dans le commerce, elles-mêmes investissent, elles ont des biens dans les caravanes. Et elles entendent récupérer les bénéfices de leurs activités commerciales. Elles-mêmes participent, sont un maillon de ce commerce à longue distance, puisqu'elles produisent des étoffes qui sont vendues à Kanesh, à l'élite locale, et dont elles récupèrent les bénéfices, les revenus. Et donc, à partir du moment où elles ont leur propre bourse, elles font des prêts à intérêt, parfois à des membres de leur propre famille. Et on s'aperçoit que dans certains cas, le couple, chacun a sa bourse. Les bourses sont séparées à l'intérieur du couple.
On va y revenir parce que ça a des conséquences sociales, sociétales, tout à fait considérables, y compris sur le plan juridique. Oui, elles m'ont fait penser par certains côtés aux femmes bretonnes qui, dans les maris sur la pêche sur les bancs, hein, le grand métier. Il y a un très beau livre dans la collection Terre Humaine, hein, sur les terres neuvaines, où les femmes restaient peut-être parfois 6, 7, 8 mois à gérer la maisonnée et s'empresser au retour des terres neuvaines, d'ailleurs, de leur piquer la recette acquise par la pêche à la morue pour leur donner un pécule hebdomadaire pour éviter que les hommes ne boivent la recette très, très, très vite. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est ce type de profil assez passionnant. Alors, dans les tablettes, vous en avez dit un mot, il y a une dimension de caractère juridique avec des contrats commerciaux. C'est assez incroyable. Il y a des enveloppes. Vous décrivez des systèmes pour éviter les falsifications comme si c'était des sortes de clés de sécurité pour éviter qu'on trafique les contrats. Vous dites tout ça, c'est d'une étonnante modernité, y compris en termes de sécurité des transactions.
Oui, alors aussi bien les lettres d'ailleurs que les contrats et les textes juridiques. Donc il faut imaginer ces petites tablettes d'argile étaient enfermées dans une enveloppe d'argile scellée, c'est-à-dire les gens possédaient leur sceau personnel qui était comme une signature. Donc pour un contrat, on imagine un contrat de prêt. Donc le créancier va remettre une somme d'argent à un débiteur et le contrat va être rédigé sur une tablette. Ensuite, on laisse un peu sécher cette tablette à l'air, on la recouvre d'argile et une fois l'enveloppe façonnée, on va résumer ou recopier le contrat sur l'enveloppe. Et puis là, le débiteur va dérouler son sceau sur l'enveloppe, de même que les témoins de la transaction. Et la tablette est remise au créancier. Et donc, le créancier a une preuve.
Une reconnaissance de
dette.
Il
a cette reconnaissance de dette. Il a la preuve qu'il a prêté cette somme d'argent au débiteur. Tant que l'enveloppe est intacte et que le créancier est possesseur de cette reconnaissance de dette, il peut réclamer son dû au débiteur. Le jour où les débiteurs lui remboursent son argent, le créancier va remettre la créance, la reconnaissance de dette au débiteur, qui casse l'enveloppe. C'est-à-dire que le texte perd son statut légal. Il perd son statut juridique puisque l'enveloppe n'existe plus. Après, le débiteur a deux possibilités. Il va garder la tablette dans ses archives en guise d'aide-mémoire. C'était une transaction que j'ai eue. Ou alors, la tablette est détruite. Et on dit, dans ce cas-là, que la tablette est tuée.
Ah oui. C'est-à-dire
que le contrat est annulé.
C'est tout à fait étonnant. Quand Claude Lévi-Strauss dit dans le chapitre 5 des structures élémentaires de la parenté, l'échange est un fait social total, c'est exactement ça, quoi. On est vraiment là-dedans, quoi. Donc la première femme dont je voudrais que nous parlions, elle constitue le chapitre 13 de votre livre, c'est Taram Koubi, et vous la désignez comme la femme délaissée. Alors, ce qui est intéressant chez cette femme, outre le fait que vous dites que c'est par son mari Inaya que vous avez commencé à travailler sur les tablettes cappadociennes, dans cette lettre, alors que généralement il y a très peu de sentiments, on va y revenir sur le rapport, faut faire attention à ne pas faire d'anachronisme sur ce que nous considérons le romantisme aujourd'hui, mais c'est plutôt des lettres qui sont assez techniques. Là, elle se laisse un peu aller, et en particulier, c'est le début. Elle lui dit qu'il pourrait tourner son regard vers elle pour la voir, y compris reviens avant que je meure, pour que tu vois les yeux de ta femme. Il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant. Alors que, pardon, mais Inaya, son mari, ça a l'air d'être un sacré pistolet parce que il va carrément. Finir en tôle pour fraude fiscale, hein, si j'ai bien compris. Hein, voilà.
Bon. Absolument.
Oui. Donc, bon. Alors lui, il est à Canet et manifestement, il l'a laissé plutôt quand même avec des vrais soucis. Pourquoi vous avez choisi donc Taram Koubi?
Alors, c'est tout à fait le hasard des découvertes et des fouilles. C'est-à-dire que la maison de son mari a dû être découverte, mais avant les fouilles officielles, malheureusement, par les fouilleurs clandestins. Et du coup, on a retrouvé toute une série de lettres envoyées par Taram Koubi, aussi bien son mari qu'à son frère qui s'appelait Imdiloum. Et donc, pour cette femme-là, j'ai presque une quinzaine de lettres qui la documentent, dont elle est l'expéditrice. Donc, du coup, effectivement, j'ai choisi parce que ça permet de reconstituer des tranches de sa vie. Plus on a de documents et plus c'est possible de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient ses activités, reconstituer un peu sa famille, savoir combien elle a eu d'enfants, quelles étaient ses activités au quotidien, comment elle intervenait et interagissait avec son frère, avec son mari, etc. Donc, oui, c'est un peu le hasard, c'est-à-dire on a pas mal de documents la concernant.
Et alors, comment vous expliquez parfois la sécheresse des textes, des lettres et fort peu de sentimentalisme ou de textes à caractère amoureux, etc. Est-ce que vous avez réussi à comprendre pourquoi?
Alors, de manière très générale, hein, dans cette documentation cunéiforme, les lettres sont d'habitude très formelles. D'ailleurs, les plus anciennes lettres que l'on ait découvertes, ce sont des lettres diplomatiques qui datent du 24e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est extrêmement c'est simple comme tournure et c'est très formel. Et dans le sud de la Babylonie, à la même époque que ces archives de Kanesh, on a aussi un peu de correspondance, mais avec des formules d'introduction, des formules de clôture, des bénédictions, etc. Ce qu'il n'y a pas du tout dans ces lettres de Kanesh. Une fois les intervenants du courrier introduits, c'est-à-dire qui parle à qui, en fait, ces lettres, on a vraiment l'impression qu'ils écrivent comme, un peu comme ils parlent. C'est-à-dire, c'est très discours direct, etc. Et c'est ce qui fait que, je ne dirais pas que c'est dénué de sentiments. Il s'exprime quand même beaucoup en disant « tu m'as déçu, tu dois arrêter de boire et de manger, tu dois penser à prier, tu dois arrêter de penser qu'à gagner de l'argent, tu dois être un homme respectable ». Donc, il y a, à mon avis, il y a un petit peu plus de sentiments que dans des lettres extrêmement formelles.
Enfin, ça reste assez froid quand même, parce que...
ça reste...
Pardon, mais...
Ça reste... Alors, je ne vais pas dire froid, je vais dire ça reste utilitaire.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en général, on écrit quand ça ne va pas. On ne va pas écrire quand tout va bien.
Oui.
C'est un peu ça le principe. Parce que, mine de rien, ça coûte quand même d'envoyer du courrier. C'est assez long. Donc, on n'écrit pas du jour au lendemain comme les gens pouvaient le faire il y a un siècle, qui s'écrivaient des lettres tous les jours, parce que le téléphone n'était pas encore très opérant. Donc, on écrit dans cette société-là quand il y a un petit problème, quand ça ne va pas. Donc, ces femmes écrivent parce qu'elles manquent d'argent, parce qu'elles réclament de l'argent, parce qu'elles aimeraient effectivement agrandir leur maison, elles aimeraient s'acheter plus de domestiques pour les aider, parce que les enfants ont faim, etc.
Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça permet, à travers certaines situations, de comprendre des configurations, dirait-on, hein, dans un vocabulaire sociologique éliassien, entre certaines, en particulier, types de femmes, en tous les cas, de statut. Hein, voilà. Donc, on a évoqué tout à l'heure Salima. Elle a quitté son mari et ses enfants à Achour. Elle découvre Kadesh et elle ne veut plus rentrer. Ou Enoum Istar, c'est chapitre 12, ça, qui se revendique célibataire et la concubine de Lagépoum, dans une société qui prône le mariage et la famille. Hein, ça peut vous permettre d'évoquer le statut de femme concubine. Il y a des concubines qui sont des esclaves, hein, parce qu'on a, on a ce dispositif-là. Hein, vous expliquez d'ailleurs ce qu'on a pu connaître aussi sur l'apparition de l'esclavage dans la Grèce antique, grâce aux travaux de Vernon sur le 8e siècle avant Jésus-Christ, comment, du fait du prêt à taux d'usure, dans l'impossibilité de rembourser, on s'est fait esclave, quoi, hein, pour
absolument, voilà, d'esclave pour dette.
C'est ça, l'esclave pour dette. Bon. Et puis il y a des concubines qui sont pas du tout esclaves, sont des femmes libres, comme Enoum Istar. Vous dites qu'elles ont un statut, on les appelle les Chavitoum. Je sais pas si je prononce bien.
Chavitoum.
Ouais, Chavitoum. Voilà. Comment est-ce que une femme comme Enoum Istar, elle a une maison, elle a elle-même des esclaves. Comment est-ce qu'elle peut, vivre comme ça, librement?
Alors, bon, si elle se dit concubine, c'est que donc elle est avec un homme sans être mariée.
C'est ça.
Et donc, elle doit vivre de façon tout à fait normale, c'est-à-dire qu'elle a des activités qui lui permettent de gagner de l'argent, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce chapitre, je fais une comparaison avec un procès qu'on a découvert dans le sud de la Mésopotamie, mais qui est à peu près contemporain, où il y a un homme et son fils qui sont partis à la guerre. L'un des deux est mort et l'autre a été fait prisonnier. Et donc, pour les remplacer, les soldats du roi décident d'aller prendre les fils de cet homme que cet homme aurait eu avec une femme. Et cette femme n'est plus là. Les enfants de cette femme ont été confiés à leur tante. Et la tante dit, non, non, tout le monde... Il était de renommée notoire que cette femme n'avait pas de mari et fréquentait beaucoup d'hommes. Donc, ces fils que vous voulez prendre pour les mettre comme militaires, ce ne sont pas nécessairement les fils du soldat. Et donc, il n'y a pas à les mettre, à les envoyer à l'armée. Donc, il existait des femmes qui n'étaient pas mariées et qui n'étaient pas des religieuses. Évidemment, c'est un phénomène plutôt marginal.
D'accord. Alors, ça nous amène à un autre point, qui est un vrai point social, c'est la question du divorce. Alors, encore une fois, dans une société qui privilégie le mariage, hein, le divorce existe. Il peut être, grâce à certaines tablettes, on a la preuve que non seulement que le divorce est possible, mais qu'il peut être aussi bien à la demande de l'homme que de la femme. Et surtout, il n'y a pas de différence de traitement. Vous dites, page 46, les indemnités imposées en cas de divorce, c'est-à-dire l'abandon de l'autre, sont identiques pour les deux parties et souvent dissuasives. Vous dites que cette parité d'indemnités à verser par l'homme ou la femme qui demanderait le divorce, elle paraît très moderne aujourd'hui et elle est également en usage dans la plupart des villes au sud de la Babylonie d'aujourd'hui. En revanche, à Sippar et Dilbat, en Babylonie du Nord, vous dites qu'il est interdit à l'épouse d'engager le divorce. Et celle qui voudrait le faire serait condamnée à mort. Elle serait soit noyée, soit jetée d'une tour. Et vous dites que ce fort contraste des traditions à l'intérieur même de la Babylonie est plutôt surprenant. Alors, est-ce qu'on a réussi à l'expliquer, ça, ce rapport
très
différent ?
Alors, ça a été étudié dans le détail et on a constaté effectivement qu'il y avait des grandes variations de régimes matrimoniaux dans le nord et dans le sud de la Babylonie. Pour ce qui est du nord, donc de Achour, c'est clair que ces contrats de divorce, enfin ces contrats de mariage avec possible clause de divorce ou ces actes de divorce montrent qu'il y a vraiment une égalité dans les indemnités à verser. Mais je vais aller une étape plus loin. Si on regarde ce qui se passe en Anatolie à la même époque, alors c'est intéressant parce qu'en Anatolie, à l'époque, il n'y a pas d'écriture. Mais les locaux ont emprunté aux Assyriens la langue et l'écriture pour laisser quelques contrats, ce qui est très précieux pour nous. Et j'ai retrouvé un contrat dans lequel il y a deux personnes anatoliennes qui s'épousent. Et il est dit, tout ce qui, donc il y aura communauté des biens, tout ce qu'ils auront acquis au cours de leur mariage appartiendra à eux deux. Et s'ils devaient se séparer, ils partageraient la maison en deux équitablement.
Ah oui.
Donc, c'est encore une étape plus loin.
Oui.
C'est qu'il y a division des biens communs en cas de divorce.
Ça, c'est assez fascinant. Alors, c'est un des traits de, on pourrait dire, d'une forme de modernité. Il y en a un autre, vous l'avez dit, c'est cette capacité qu'ont les femmes à signer des lettres de créance, à passer des marchés, des contrats à conséquences financières. Elles possèdent des capitaux en propre, elles ne dépendent pas des hommes. Et vous rappelez joliment, en guise de clin d'œil, qu'en France, il a fallu attendre 1965 pour qu'une femme soit autorisée à ouvrir un compte bancaire sans le consentement de son mari. Et je crois qu'une jeune femme qui avait moins de 25 ans devait avoir l'autorisation du père, il me semble bien.
Oui, je ne suis pas allée aussi loin. Mais
en France, oui, voilà. Alors, il y a un autre aspect. Vous disiez tout à l'heure, dans les lettres, c'est très formel. J'ai quand même trouvé assez souvent, tu feras une offrande à ton Dieu, tu penseras à ton Dieu. Les femmes, elles leur rappellent à parfois ces mécréantes commerciaux qu'il y a quand même une puissance au-dessus, quoi. Hein. Elles ont
une fibre religieuse beaucoup plus
marquée
que celle des hommes, beaucoup plus marquée. Et en plus, elles fréquentent des devineresses, des oniromanciennes pour essayer de comprendre quelles sont les intentions des dieux. Et d'interpréter les rêves pour savoir, voilà, si dans cette civilisation, si quelqu'un tombe malade, c'est qu'il a fauté et le dieu s'est fâché. Donc on essaye de comprendre les intentions des dieux en allant consulter des devins, des gens qui sont capables d'interpréter les rêves. Et ce qui est très intéressant dans cette société-là, c'est que les femmes consultent des femmes. Alors que dans le reste de la Mésopotamie, on connaît le roi est entouré de devins, d'astrologues, etc. Oui, oui. Mais là, on est vraiment dans un cas documenté un peu particulier. Et effectivement, les femmes sont très religieuses et rappellent sans arrêt les hommes à leurs devoirs religieux en expliquant que c'est peut-être bien de gagner de l'argent, mais il ne faut pas ne penser qu'à ça et il faut aussi penser à faire des offrandes au temple, etc.
C'est une dimension spirituelle qui est tout à fait intéressante. Vous évoquez Atitoum et Absalim, ou encore Oumi Ishara, qui font l'objet de textes particuliers. Alors, certaines étant une dévote, il y a une dévote là. Voilà. Je ne vais pas vous demander, pardon pour la référence, de faire le choix de Sophie, ça sera beaucoup moins grave ma question. Mais est-ce que vous pouvez en choisir une dont on n'a pas parlé dont vous souhaitez nous parler un peu plus? Je vous laisse la liberté du choix. On n'a pas préparé la question. Hein, donc.
Non, pas du tout. Mais comme vous venez de mentionner Oumi Ishara, je trouve que c'est une personnalité qui est très intéressante. Ouais. Donc, c'est une femme qui a été consacrée au dieu Ashour et qui donc a le statut de religieuse et n'a pas de mari, n'a pas d'enfant. Et elle vit à Ashour. C'est la fille du marchand Elama et c'est la sœur de Shalima que vous avez évoquée plus tôt. Et donc Oumi Ishara vit à Ashour, pas très loin de chez sa sœur, qui est mariée, qui a un mari qui s'appelle Hiram Ashour, qui a des enfants. Et lorsque Shalima décide d'aller rendre visite à sa mère, qui est installée à Kanesh, à 1000 km de là, elle s'y sent bien et elle n'a pas du tout envie de rentrer à Ashour. Et donc Oumi Ishara, qui est restée à Ashour, qui n'a pas d'enfant, qui habite pas loin de son beau-frère, voit son beau-frère dépérir, voit les enfants de sa sœur sans mère pendant une longue période, et décide d'essayer de faire rentrer sa sœur dans le bon chemin, c'est-à-dire rentrer à la maison, s'occuper de son mari et de ses enfants. Elle lui écrit un certain nombre de lettres, mais on en a retrouvé une, qui est un petit bijou de lettres. Elle fait 5 cm sur 5 cm, et il y a une soixantaine de lignes. Elle est merveilleusement écrite, et elle est extrêmement intense, parce qu'elle explique à sa sœur « Ton mari dépérit, ça fait 5 jours qu'il n'est pas sorti de chez lui, tes enfants sont délaissés, sont abandonnés, ils sont élevés par des étrangers, il faut absolument que tu rentres chez toi, que tu t'occupes de ton mari et de tes enfants. Si tu n'aimes plus ton mari et que tu cherches un autre époux, il faut me le dire, à ce moment-là, moi, tu ne seras plus ma sœur, je ne pourrai plus prononcer ton nom. Moi, j'ai des bonnes relations avec ton mari, mon beau-frère, et je ne voudrais pas que ces relations cessent, donc il est grand temps que tu rentres, dépêche-toi de rentrer à la maison. Et cette lettre, c'est un bijou, je trouve, aussi bien dans la forme, dans la matérialité que dans le contenu.
Oui, elle est assez longue. Hein,
elle est très longue, elle fait une cinquantaine de
lignes. Ah oui, et je l'ai sous les yeux, là, page 301, 302 du livre. Elle lui dit, si tu ne reviens pas ici rapidement, tu vas me mettre en conflit avec ton mari. Il y a toujours la crainte d'avoir des soucis. Hein. Et tu vas laisser tes enfants dépérir, et moi, plus jamais, je ne mentionnerai ton nom. Il lui a déjà dit, le mari, arrête de parler du nom de ma femme parce que j'ai plus envie. Tu ne me seras plus ma sœur et tu ne devras plus jamais m'écrire. Enfin, c'est dur. Hein. On va terminer par une réflexion que je trouve plutôt à caractère philosophique de votre part. C'est sur la question de la trace que nous laissons à nos lointains descendants. Je vous laisse nous parler de cette interrogation. Parce que c'est l'archéologue qui parle en vous. Vous évoquez la durabilité, la résistance au temps et aux événements de ces étonnantes petites tablettes d'argile cappadociennes, et vous les mettez en perspective par rapport à nos fichiers numériques dont vous dites que dans 4000 ans, il est fort peu probable, si tant est qu'il y a encore une humanité, que des archéologues de l'époque puissent les déchiffrer. C'est assez vertigineux, cette réflexion, parce que ça nous remet aussi dans un continuum qui est de 6000 ans, en réalité, quoi, entre le 20e siècle avant Jésus-Christ et le 21e après.
Alors effectivement, parce que à Hambourg, en Allemagne, je travaille dans un centre qui est spécialisé dans tout ce qui est culture manuscrite et épigraphique, c'est-à-dire tout objet avec des inscriptions, et on travaille sur tous les continents et depuis l'apparition de l'écriture jusqu'à aujourd'hui. Et on travaille sur énormément de supports différents, donc tout ce qui est manuscrits, parchemins, mais il y a aussi écorces de bois, il y a aussi des textes écrits sur le métal, sur la pierre, etc. Et en regardant ces tablettes qui ont survécu autant de millénaires, qui même quand elles brûlent, survivent encore plus longtemps, bon, le papier, le parchemin, ça peut se conserver, mais en milieu humide, en milieu feu, ça ne se conserve pas bien. Mais les données numérique, ben vous passez d'un système à l'autre, d'une année à l'année suivante, vous avez des systèmes d'exploitation qui changent tout le temps, les fichiers qui sont plus lisibles, et puis finalement ben on perd énormément de données, tous nos courriers, on écrit presque plus, c'est très difficile, on reçoit presque plus de courriers manuscrits, ça c'est quelque chose, moi j'essaye d'écrire encore un peu à certaines personnes, mais c'est vrai que ça s'est complètement perdu, et finalement bah, les courriers électroniques, bah, ça s'efface très rapidement, et donc on laisse presque plus de traces à ce niveau-là.
Je me suis totalement embrasé tout à l'heure en évoquant 6000 ans, je l'ai perdu dans le temps, c'est 2000 avant Jésus-Christ, 2000 après, ça fait 4000. Mais c'est très fort ce que vous dites, parce que vous vous souvenez qu'à l'occasion du centenaire de la guerre 14-18, dans les greniers, les familles ont exhumé des cartes, entre autres des cartes postales écrites par les poilus au front, ou des cartes qui étaient ramenées par les poilus après la guerre, c'était leur famille qui leur écrivait, qui écrivait tous les jours à l'époque, hein, voilà. Donc là, il y avait vraiment une trace, voilà. Merci beaucoup, Cécile Michel, c'était absolument passionnant à lire. Ça s'appelle donc « Quand les femmes écrivaient l'histoire dans la entre la Mésopotamie et l'Anatolie, il y a 4000 ans, c'est au seuil ». Merci.
Merci à vous.